Les langues se délient. Parole à l'étranger.
J'ai marché jusqu'à vous.
Ils sont albanais, burkinabés, maliens. Je vais à leur rencontre et on discute un moment.
Salut à toi, ô mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'algérien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, le chilien, salut à toi, le petit malien, salut à toi, le mohican, salut à toi, peuple gitan.
Suite à notre dernière émission dans laquelle je vous lisais l'histoire racontée par Amadi, qui parlait du terrible lion et du petit lapin malin, vous pouvez d'ailleurs la réécouter en podcast, un autre migrant africain, lui du Soudan, m'a proposé un conte traditionnel de son pays, en me disant « Moi, je ne pourrais pas le dire dans ton micro, mais si tu veux bien écrire ce que je vais te raconter, ça pourra peut-être intéresser tes auditeurs. » Eh bien, écoutons cette histoire qu'Alassane nous propose. Tout avait commencé par une terrible tornade qui avait soufflé plusieurs jours et plusieurs nuits d'affilée, sans jamais s'arrêter. Quand le calme était enfin revenu, les habitants s'étaient retrouvés horrifiés par le spectacle de fin du monde qu'offrait le village dévasté, après le passage des éléments déchaînés. Dans la forêt, des arbres déracinés, ébranchés, saignaient désespérément de sève. Dans les champs, les jeunes pousses de maïs, de manioc fauchés, gisaient pêle-mêle. Dans la localité des hommes, enfin, le vent avait éventré des maisons, emporté des toits, détruit plusieurs quartiers dont il ne restait plus qu'amas de tôles et buttes de torchis. Des familles entières avaient été décimées, et les survivants se sentaient miraculés, mais tellement impuissants. À Teknoma, à Djibélé, à Sapilac, tout le long de cette route escarpée qui sillonne le pays des confins, perdu au cœur de la forêt, et la relie à la grande ville, les nouvelles étaient parvenues effarantes, et les dégâts étaient rapidement apparus à Bissino. Partout, on n'avait plus parlé que de ce désastre dont il faudrait des semaines pour se remettre. Cela s'était déroulé au début de l'année et l'on pouvait espérer que les mois à venir apporteraient du réconfort. Dans les semaines qui avaient suivi, tant bien que mal, souvent avec les moyens du bord, chacun et chacune avait tenté de reconstruire. Mais dès le printemps, une autre catastrophe imprévisible et aussi soudaine que la précédente s'abattit sur la région. Un vol de criquets ravagea en quelques heures les cultures alentour et mit les paysans à genoux. Toutes les promesses de réserve disparurent en un tour de main et la perspective de la famine à venir frappa de plein fouet tous les espoirs d'une année prometteuse. Pourtant, là encore, les villageois retroussèrent les manches et recommencèrent à semer. La force de vie avait été la plus forte. Mais jusqu'à quand? L'année mal commencée se poursuivit tant bien que mal. Puis arriva le coup de grâce. Certains auraient prophétisé la troisième vague. Et avec elle, une terrifiante sécheresse cloua au sol toute velléité de résilience. La nature s'effondrait vers son déclin. Et comme le disaient les plus pessimistes, on ne sait pas où tout cela va nous mener. Mais ce n'est sûrement pas vers la vie. Aussi, dans un dernier soubresaut, le grand sorcier invita à se rassembler, sur la place du village, les habitants encore valides, qui se traînèrent jusqu'à l'arbre à palabres. Dans un silence de mort, il annonça solennellement : Je vous ai convoqué pour que nous prenions une grave décision. Aujourd'hui, nous devons traduire en justice les cataclysmes qui nous ont agressés depuis le début de l'année, et j'en ouvre maintenant le procès public. On ne peut plus continuer à subir indéfiniment cette profonde injustice. D'abord cette tornade qui a tout détruit sur son passage, puis ces nuées de criquets, et enfin cette insoutenable sécheresse. Il nous faut déterminer les causes de ce qui a provoqué ces différentes catastrophes, et je déclare notre assemblée comme le tribunal du peuple. Le procès est ouvert. Ainsi parla le grand sorcier, pour introduire cette séance mémorable dont on rappelle le souvenir à la fin de chaque année. Les orateurs se succédèrent. Le vieux savetier intervint. Un génie de la forêt a été contrarié. On pratique trop de brûlis. et on exploite cette source de richesse à des fins souvent mercantiles. » L'instituteur prit la suite. « Les parents oublient trop les devoirs que l'on a d'instruire les enfants. Souvent, ces derniers s'absentent de l'école, car ils sont employés dans les champs de manioc ou de maïs. Et la nature ne trouve pas cela normal. » Le vendeur de briques déplora que la jeunesse, trop bruyante et insouciante, fut la cause de tous les désordres météorologiques. Le policier poursuivit. Toutes ces catastrophes ont commencé avec l'arrivée des étrangers sur notre territoire. Ce sont eux les responsables de tous les déséquilibres climatiques. Et bientôt, chacun, chacune y éla de ses arguments. En ce sens, ils se retrouvaient tous d'accord à crier « haro sur le baudet ». C'étaient toujours les autres les coupables. Mais ce consensus ne faisait pas évoluer la situation. Justement, un jeune étranger arrivé de fraîche date dans ce lieu pour travailler à la poste s'avança vers le centre du cercle et prit la parole. « Peut-être que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais dans ma bourgade d'origine, de l'autre côté du fleuve, réside un vieillard que l'on appelle le vieux sage et que l'on consulte quand un problème se présente. Si nous lui faisions appel, il pourrait venir éclairer notre lanterne et aller savoir. Il nous suggérerait une piste à suivre. » Un silence pesant s'installa, et sans doute parce qu'il n'y avait pas d'autre proposition, le sorcier lui confia la mission de ramener ce personnage énigmatique. Tout en pensant au fond de lui, « qu'est-ce qu'un vieux fou pourra bien nous proposer comme solution ?» Mais il s'abstint de formuler un tel avis. Le surlendemain, notre jeune ami revint, accompagné de cet homme sans âge. Ce dernier manifesta d'abord le désir de découvrir l'ensemble du village. L'ayant parcouru, il demanda que lui soit attribuée une case à la lisière de la forêt. « Durant 3 jours, j'agirai de mon côté, sans que l'on me dérange. Donnez-moi, s'il vous plaît, chaque matin un bol de manioc et un verre d'eau que vous poserez devant ma porte. Pendant ce temps, je recommande à chacun et chacune de nettoyer l'ensemble du hameau, son espace personnel bien sûr, mais également les espaces collectifs. » Ce qui fut fait. Au matin du 3e jour, une pluie bienfaisante se mit à abreuver le sol. La sécheresse était terminée. Le vieillard, au sortir de sa case, reçut une vive ovation. Le grand sorcier, voulant en avoir le cœur net, lui demanda, avant qu'il s'en retourne de l'autre côté du fleuve, « Comment vous expliquez tout cela, vieux sage ?» Celui-ci lui répondit, « Oh, c'est très simple. Lorsque je suis arrivé dans votre bourgade, j'ai tout de suite vu que le désordre régnait à tous les niveaux, et cela m'a perturbé. Durant 3 jours, je me suis installé en méditation de manière à retrouver mon équilibre intérieur. Pendant ce temps, vous vous êtes tous activés à nettoyer les différents espaces qui constituent votre quotidien. Vous avez rétabli, vous aussi, l'ordre et l'harmonie. Et quand le ciel a constaté cela, apaisé, il a décidé de se mettre en communion et en fraternité avec vous tous. C'est aussi simple que ça. Grand merci à la Sainte pour ce joli message de sagesse dans notre époque troublée. Et c'est un bon moyen de finir l'année. Pour terminer cette émission, je vous propose une chanson que m'a proposée Alassane, qui s'appelle Lampedusa. C'est là qu'il est arrivé quand il a traversé la Méditerranée. Une chanson écrite de Najah Vallo Belkacem pour défendre la cause des migrants. Chers auditeurs, à l'année prochaine.
Déjà, bateau ivre à la dérive, gouvernail rame de bois, pas grand chose pour qu'il chavire. Au beau milieu du détroit, ils n'étaient pas faits pour 10, ils sont 30 entassés là, à rêver de ces frontières, portes closes à double tour, à souquer de toutes leurs peines, cœur à l'envers, souffle court. Là, croire que c'est un crime d'avoir tout largué là-bas, pays, femme, enfant, racine, pour un rêve qui se noie. Dis-toi qui dans nous guette, au fond quel était leur choix, entre l'exil et la quête, ils ne sont plus d'ici ni là.
à rêver de ces frontières portes closes à double tour, à souquer de toutes leurs peines, cœur à l'envers, souffle court.
Lampedusa, pour un visa. Lampedusa, si loin là-bas.
À toi qui crois que la vie trilivrait le bon grain pour mieux répartir ceux qui ont tout et ceux qui ne sont rien, viens donc voir ce qu'est la terre asséchée par le destin, l'acre goût de la misère, l'impuissance et le chagrin, et défaillir le cœur d'une mère quand vient l'heure pour son gamin d'aller s'offrir à d'autres mères pour espérer vivre enfin.
Lampedusa,
promise, la mère leur ouvre les bras, froide et fière de son emprise. Ils ne la voyaient pas comme ça, peuplée de ces anonymes qui savent le prix à payer d'un passage dans l'abîme en mer Méditerranée.
Lampedusa, pour un visa. Lampedusa, tout ça, c'est...